When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Alors, dans votre histoire de cinéma, mon cher Antoine, nous allons parler d'un artiste que vous connaissez particulièrement bien, Charles Maton, à l'occasion de la sortie d'un très beau coffret DVD regroupant ses 4 longs-métrages, plus des courts-métrages, plus plein de merveilles, ainsi qu'un livre écrit par Sylvie Maton.
Alors oui, j'ai eu la chance de bien connaître Charles Maton quand j'étais plus jeune, et même quand j'étais très jeune. Et Charles Maton, c'est peut-être l'un des plus grands artistes du XXe siècle. C'est quelqu'un qui a compris le XXe siècle, qui l'a résumé, qui l'a projeté aussi dans l'avenir qui est devenu le nôtre aujourd'hui. Il n'est pas extraordinairement connu du grand public, et pourtant il a une cohorte d'admirateurs parmi les plus grands artistes, les plus grands philosophes, les plus grands cinéastes. Parler de Charles Maton par exemple Jean-Pierre Jeunet, il est capable de vous en parler pendant des heures, mais c'est le cas de tas de personnes d'horizons les plus divers. Et donc, l'œuvre de Charles Maton, elle est très très complète, et elle comporte notamment des films, parce qu'il était cinéaste, alors qu'il était aussi peintre, illustrateur, photographe, sculpteur. Enfin, il a vraiment donné dans tous les arts. C'est une œuvre cinématographique qui n'était pas très facile d'accès. Une partie des films n'avait jamais été édité en DVD. Et là, Carlotta nous sort un coffret absolument extraordinaire avec toute l'œuvre cinématographique de Charles Maton, y compris des courts-métrages qui sont, pour certains, totalement oubliés et qui pourtant sont très importants aussi. Et puis, il y a un magnifique livre qui est le coffret, en quelque sorte, l'objet qui contient les DVD et qui a été écrit par Sylvie Maton, qui était l'épouse de Charles Maton. Voilà.
Et Sylvie Maton qui nous fait le plaisir et la gentillesse d'être avec nous dans l'émission pour nous parler donc de l'œuvre de Charles Maton. Sylvie Maton, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, pour quelqu'un qui découvrirait là, en même temps que nous avec les auditeurs, l'œuvre de Charles Maton, comment, en quelques mots, comment vous la résumeriez? Je sais que c'est un exercice toujours réducteur, mais quels seraient les premiers mots qui vous paraîtraient les plus justes pour résumer son œuvre?
Oui, effectivement, elle est complexe et donc difficile à résumer. Disons qu'elle est vaste, et Charles se disait lui-même, sur un mode ironique, fabricant d'images, puisqu'il était à la fois peintre, dessinateur, sculpteur, photographe et cinéaste. De même qu'il était écrivain, et je suis ravie d'avoir pu donner un grand nombre de manuscrits de Charles à la BNF il y a quelques années, qui effectivement confirment ce statut dont il faisait peu cas, bien qu'écrivant tous les jours, une ou deux heures par jour. Donc, fabricant d'images, il était peintre avant tout, c'est-à-dire avant tout le reste d'abord, en son esprit, c'est-à-dire que la peinture était pour lui le médium qui lui correspondait le mieux, qui correspondait le mieux à sa manière d'aborder les apparences n'étant pas équivalentes à la réalité. Donc Charles n'a eu de cesse, à travers le médium peinture, mais aussi le crayon, et Charles était un immense dessinateur, et Dieu sait que par génération nous avons quelques grands artistes, mais très peu de dessinateurs. Ensuite, bon, il était photographe, c'est-à-dire qu'il captait des instants, il cadrait ce qu'il avait sous les yeux, et cinéaste. Alors il se disait aussi contrebandier, c'est-à-dire que Charles affirmait que chaque technique ayant ses frontières et ses spécificités, selon ce qu'il désirait exprimer, il était obligé de passer d'un médium à l'autre, donc en fonction de ce qu'il voulait partager avec un public restreint ou vaste selon la technique employée.
Alors justement, le cinéma, comment le cinéma de Charles Maton se nourrissait de ses autres talents artistiques?
Alors, ce que Charles affirmait donc, c'est que lorsqu'il faisait de la peinture, il était un peintre. Lorsqu'il faisait du cinéma, il était un cinéaste. Il n'était pas un peintre faisant du cinéma. Lorsqu'il faisait de la photographie, il devenait photographe. Et il n'était pas un dessinateur en train de faire de la photo, etc., etc. Lorsque Charles a commencé à faire du cinéma, il l'a d'abord fait avec un court-métrage qui s'appelle « La pomme ». Et ça, c'était en fait, c'est le contre-exemple. C'est-à-dire que La Pomme est un film de dessinateurs, d'esthètes de la qui travaillent avec la peinture et le crayon et la sculpture, pour raconter une histoire absolument banale et quotidienne. Un couple, des enfants, le couple se sépare. Mais en fait, les images sont des images jamais vues, à savoir que le film se déroule, s'arrête. L'image arrêtée devient bien sûr, dans notre regard, une photographie qui elle-même va devenir un dessin très réaliste, qui va de seconde en seconde, sous la caméra verticale, se transformer jusqu'à devenir quelque chose de quasiment abstrait, mais qui continuera dans toutes ses formes, dans toute cette recherche formelle, à exprimer l'essence même de la chose, à savoir du sujet traité. Donc ça, c'est le premier court-métrage.
Donc après La Pomme, il y a d'autres courts-métrages, et alors il y en a un où on va voir apparaître Richard Boringer, qui est Activité vinicole dans le Vouvray. Alors ça, c'est quand même très étonnant. Quelle est l'histoire de ce document?
Absolument, c'est très étonnant. C'est un ovni total. C'est un film de vacances. Richard Boringer m'a d'ailleurs raconté un petit peu ses souvenirs de ce tournage, et ce texte est dans le livre. Un mois et demi de tournage pour 15 minutes de film, c'est un peu du jamais vu, donc c'est sans doute le court-métrage le plus cher de l'histoire du court-métrage. Et il faut savoir que ce mois et demi de tournage se passait donc dans le Vouvray, dans les caves du Vouvray notamment, et que les protagonistes de l'affaire passaient d'une ivresse à l'autre, et les personnages étaient Richard Boringer, donc tout jeune, Charles Maton, et Jean-Pierre Rassable, qui fut l'un des plus grands producteurs français, mort bien trop jeune. Et la première production de Jean-Pierre Rassable, le premier film de fiction de Charles Maton et le premier film de fiction également pour Richard Boringer. Le scénario n'existait pas, le scénario s'écrivait de jour en jour. Richard résume le film à une histoire de vengeance, une histoire de vendange avec une belle nana. Et c'est à peu près ça. Voilà, donc c'est un ovni, c'est amusant que quelqu'un ait eu les moyens de faire un film en 35 mm. Je dois dire, petite anecdote, qu'il n'y avait pas de son direct, tout le son a été post-synchronisé, et j'en ai pour preuve d'avoir reconnu la voix de Charles avec un accent morvandio, comme il savait très très bien le faire, il savait très très bien imiter les paysans du Morvan. Oui, c'est un brouillon, un ovni. C'est un drôle d'objet, ce film.
Alors,
il
y a un autre court-métrage qui est Paris, mai 68, ou Les violences policières. Mais on peut peut-être passer au premier long-métrage, qui est L'Italien des roses, où on va retrouver Richard Boringer. Et même pour les gens qui ne connaissent pas Charles Maton, ce film est considéré comme un film mythique aussi dans la carrière de Boringer. Donc c'est vraiment un vrai début pour les deux.
Absolument, encore une fois, c'est leur premier long métrage à tous les deux. Et Richard est fantastique dans ce film. Le film lui-même est une belle aventure. On est déjà au niveau de l'écriture. Au départ, c'était un court-métrage. Charles a obtenu l'avance sur recette pour le court-métrage. Il l'a refusé. C'était une première dans l'histoire du CNC. Parce qu'entre-temps, il écrivait un long-métrage. C'est C'est une histoire qui était au départ un fait divers. Donc un type sur un toit qui veut se jeter dans le vide et la foule qui s'amasse au pied de l'immeuble dans cette cité, dans cette cité des roses. Donc et la foule au départ est très bienveillante et petit à petit va devenir de plus en plus hystérique jusqu'à lui demander de sauter. Et lui, pendant ce temps-là, parallèlement à cette simultanéité entre le toit et la foule, lui va se remémorer sa journée et c'est le mal-être d'une société en cette époque des années 1970. Avec une fêlure psychologique individuelle particulière que vit le personnage incarné par Richard, qui est encore une fois formidable dans ce film, qui a un moment de bravoure dans le bar où il se lâche, où il improvise, et il est juste génialissime. Quoi.
Et alors, dans ce film, qui est aussi, c'est en ce sens qu'il a quelque chose de précurseur, qui est aussi un des premiers films sur la banlieue, finalement, on voit dans ce film, on voit dans le coffret, on voit tous les dessins qui avaient été faits par Charles Maton pour illustrer et préparer le bâtiment, pour préparer justement ce toit d'un immeuble de grande hauteur sur lequel se trouve Richard Bohringer. Là, il faut dire que le livre est un travail extraordinaire dans lequel il y a à la fois beaucoup de photos de tournage, mais il y a aussi les innombrables croquis, les innombrables notes avec une écriture magnifique, avec évidemment un dessin somptueux qui ont été faits par Charles Maton pour accompagner son film.
Oui, mais alors il n'y a pas du tout tous les dessins. Il n'y en a qu'une partie. Je me suis fait énormément de violence en faisant ce livre qui comprend quand même 304 pages. Mais on mettra tous les dessins dans le prochain qui en fera 1500. Donc là, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est une partie. Il a fallu faire des choix. Et c'est vrai que tous ces dessins, toutes ces notes, tout ce travail préparatoire, ce qui frise l'obsession, est absolument formidable. Et on retrouve des choses amusantes. Par exemple, là, moi, comme je l'ai sous les yeux, je peux vous le dire, page 19, là, il y a le dessin donc de l'immeuble. Il est marqué une architecture de carton. C'est-à-dire que Charles déjà sait. Ils ont effectivement tourné sur le toit d'un immeuble. C'était près de l'hôpital Beaujon, mais ils ont également tourné en studio, donc il y a eu reconstitution d'une partie du haut de ce toit, d'un immeuble moderne, hein, évidemment un toit plat, mais il y avait également cette idée d'une architecture de carton, donc on est déjà dans les reconstitutions de lieux, dans les miniaturisations de lieux que Charles a faites, quelques décennies plus tard. Donc c'est très amusant. Tout cela, effectivement, le maillage existe complètement entre les films et les autres médiums, comme on se disait tout à l'heure.
Alors le film suivant, qui a un titre qui étonnera un peu nos auditeurs, qui est Spermula, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Spermula qui a un sous-titre, je crois.
Oui, c'est de mémoire, c'était L'amour est un fleuve en Russie.
Voilà, qui est savoureux.
Voilà. Charles s'est beaucoup battu pour que le titre Spermula disparaisse. Et ensuite, il l'a totalement assumé, parce qu'il fallait bien. Bon, c'est un film qui appartient encore une fois là, à son époque, donc les années 70. C'est un titre un peu idiot, parce que finalement, ceux qui seraient allés voir le second film de Charles Maton, à savoir le réalisateur de L'Italien des Roses, parmi ceux-là, il y en a qui n'y sont pas allés à cause du titre, et ceux qui allaient voir le film attirés par le titre en sortaient extrêmement déçus parce qu'ils n'y avaient pas trouvé ce qu'ils allaient y chercher. C'est un film qui a été proposé à Charles par un producteur qui était novice, Bernard Lantéric, qui ensuite est devenu un écrivain de best-seller. Et Bernard Lantéric a proposé donc une trame, mais surtout une production importante pour que ce film érotique, donc encore une fois dans cette décennie où il y avait tous ces films érotiques et qui faisaient du bien à notre société aussi, hein, il a fallu en passer par là bien sûr pour libérer un petit peu tout cela. Donc ce que Bernard Lantéric proposait à Charles, c'était quelque chose d'une magnificence au niveau des décors, au niveau d'une création d'objets, de sculptures, et ça correspondait complètement à ce qu'il était en train de faire. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il a accepté, enfin il a bien réfléchi et il s'est dit qu'il allait faire ce film avant de travailler le scénario autrement et d'en faire un film finalement qui est un film totalement féministe, un film complètement actuel qui à mon avis va trouver ses spectateurs aujourd'hui par une lecture qui n'était peut-être pas aussi évidente que cela lors de sa sortie.
Alors ensuite, on a un film qui est un film largement autobiographique de Charles Maton, qui est La Lumière des Étoiles Mortes, dans laquelle joue d'ailleurs votre fils à tous les deux, qui est Léonard Maton, oui. Et qui est d'ailleurs aussi, on parlait de Jean-Pierre Rassam tout à l'heure, celui-là, il a été produit par Humbert Balzan. Donc on peut dire que Charles Maton, ça a été aussi la rencontre avec des noms très importants de la production.
Oui, cher Humbert, qui est parti bien trop tôt, lui aussi, absolument. Donc c'est une belle rencontre avec ce producteur et ami, devenu ami. Donc La Lumière des Étoiles Mortes, c'est une chronique. C'est la chronique qui se déroule sur 2 ans et demi, pendant lesquels des Allemands ont donc investi, lors de l'occupation allemande, ont investi la maison dans laquelle vivait la famille Maton, en les laissant demeurer là, puisqu'ils n'avaient pas les moyens de partir sur les routes et de se retrouver dans une autre demeure, on ne sait où. C'est arrivé maintes fois en France, lorsque ce film est sorti, on a reçu énormément de courriers et de coups de fil, et même de coups de fil d'amis qui avaient vécu la même chose, avec les mêmes séquences, c'est-à-dire forcément la séquence de Noël, où tout le monde se retrouve au salon, dans le salon, avec l'arbre de Noël, les Allemands et les Français, ce qui ne signifie pas du tout une collaboration, mais juste une vie en commun, un peu étrange, avec parfois, et c'était le cas là, le père de Charles et un officier allemand qui avait vécu les mêmes choses sur le front lors de la guerre précédente. Donc des souvenirs communs. Mais sur cette base-là, qui est donc une chronique comme ça au quotidien, Charles a raconté ce qui est finalement le ferment de son art, le ferment de sa création, à savoir toutes ces recherches, ces interrogations face au miroir, face aux apparences. Et bien entendu, un artiste se construit dès l'enfance, comme chaque être humain, bien sûr. Donc, il a fait une introspection, bien entendu, lors de l'écriture de ce scénario et lors du tournage de ce film, qui est un film un peu ovni lui aussi, mais parce qu'il y a des émotions qui se créent lors des projections de ce film que nous n'avons jamais comprises nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on voyait les gens sortir des projections avec le nez rouge et les yeux pleins de larmes, et ils ne savaient pas eux-mêmes pourquoi ils avaient pleuré, pourquoi soudain ils étaient submergés par une émotion qui les dépassait, qui nous a toujours dépassés aussi. Donc c'est un film, c'est vraiment un drôle de film, super beau à mon avis.
Et puis alors nous allons retrouver Richard Boringer avec Roman Boringer aussi, mais aussi avec Jean Rochefort et Klaus Maria Brandauer dans Rembrandt, qui est le dernier film de Charles Maton, et dans lequel évidemment, même si il était cinéaste quand il était cinéaste et peintre quand il était peintre, il y a évidemment toute son admiration pour Rembrandt qui passe dans ce film dont vous avez fait le scénario d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Je me suis lancée dans cette écriture, dans cette recherche d'abord et dans cette écriture toute seule pendant 9 mois. Et ensuite, on a travaillé à 80. Et tout part en fait, tout part de la lecture d'un résumé de la vie de Rembrandt, une année par ligne sur un petit livre qui coinçait dans la bibliothèque. Enfin, c'est vraiment le pur hasard qui nous a amené à désirer faire ce film. Et c'était d'un romanesque fou, mais il y avait effectivement plusieurs raisons de faire ce film, à savoir la vie de Rembrandt, qui est une vie chargée de chagrin, avec la trahison d'une société qui va l'adorer, puis se détourner de lui, cherchant, alors que elle est à la recherche d'une autre mode, d'une autre forme de peinture, beaucoup plus claire, beaucoup plus fleurie, alors que lui s'enfonce dans ses ombres, avec les ombres amenant bien entendu les lumières. Mais sa vie est d'une tristesse absolue et est une tragédie absolue. Et Rembrandt est le courage incarné. C'est-à-dire que malgré tous les chagrins, la perte des enfants, de la femme aimée, la ruine, etc., il continue. Plus il est un peu comme Job, plus il est délesté de ce qu'il aime, plus sa peinture devient lumineuse et flamboyante.
On sait que Charles Maton était parfois incompris dans son époque, notamment en tant que peintre, notamment parce qu'il était à l'époque où la peinture abstraite, la plus abstraite, était totalement reine auprès des critiques d'art, et Charles Maton n'était pas un peintre abstrait. Et est-ce que on peut dire qu'il y a quand même une certaine projection entre l'isolement qui était celui de Rembrandt et ce que Charles a vécu quand il a été face à cette difficulté de son époque de le comprendre, alors qu'aujourd'hui, les gens le comprennent beaucoup mieux?
Oui. et bien entendu qu'en écrivant ce scénario, j'avais cela en tête tout le temps, et il ne s'agissait pas de raconter Charles, il s'agissait bien de raconter Rembrandt. Mais oui, absolument, Charles également a été d'un grand courage, et surtout d'une sincérité absolue, c'est-à-dire que l'art étant pour lui ce qu'il y avait de plus important, à savoir un mode d'emploi de la vie, il aurait très bien pu faire, non pas ce qu'on lui demandait, parce qu'on lui demandait rien, mais il aurait très bien pu faire comme il était demandé à l'époque aux artistes. Il en a même eu l'idée, pardon de parler de quelque chose que j'ai, d'une chose que j'ai faite, mais il y a également dans ce coffret un documentaire que j'ai réalisé donc sur Charles et qui a été diffusé sur Arte plusieurs fois. Il est donc dans ce coffret où je raconte Charles, et je raconte notamment ce moment de sa vie où, après un incendie dans son atelier, voyant les toiles brûlées, les châssis à demi carbonisés, et trouvant cela assez esthétique, il s'est dit, oh ben tiens, je pourrais devenir l'artiste des combustions. Et j'en ai fait un petit moment où on rigole à ce propos, disons que l'idée lui a traversé l'esprit 3 secondes, dans la mesure où c'eût été vendre son âme totalement, et ça je peux affirmer, et vous le savez aussi, cher Antoine, que Charles Maton n'a jamais vendu une parcelle de son âme, encore une fois, l'art étant beaucoup trop, étant primordial pour lui, quoi, voilà.
Merci beaucoup.
Sylvie Maton, merci beaucoup. Je rappelle la sortie donc d'un coffret 4 DVD chez Carlotta, donc les 4 longs métrages, L'Italien des Roses, Permula, La Lumière des Étoiles Mortes et Rembrandt, plus de nombreux d'autres courts métrages, ainsi donc que la sortie du livre de Sylvie Maton qui revient sur l'œuvre de Charles Maton.
Une découverte quand même, vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ce sont des films magnifiques, et ce sont des films sont d'une originalité assez extraordinaire. On peut dire que Charles Maton était vraiment est vraiment passé comme un ovni dans le paysage du cinéma.
Voilà, et ben tout est dit. Merci beaucoup Antoine, et merci à vous Sylvie Maton d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir convié, merci beaucoup pour ce moment. Au revoir.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.